Bonjour à tous. Non, mais vous pouvez me répondre. Je disais bonsoir à tous.
Bonsoir.
Je suis touché d'avoir entendu des témoignages déjà. C'est vraiment très fort ce que la parole de Dieu en elle-même peut faire. Vous avez remarqué qu'à tous nos cultes, je pense que peut-être depuis la rentrée, il y a peut-être un culte où il n'y a pas eu un témoignage, mais nous avons décidé qu'à tous nos cultes, il y aurait des témoignages, au moins un témoignage. Est-ce que vous savez pourquoi? En fait, je vous pose la question parce que c'est le sujet de mon partage ce soir. La puissance du témoignage, la force du témoignage. Nous sommes dans une saison, on parle de « in » et « out », qui veut dire simplement « nous venons vers Jésus, on le rencontre, on le goûte, et puis il nous envoie vers les autres rendre témoignage de ce que nous avons vécu. » C'est de ça dont il s'agit. Et je veux m'arrêter pour nous dire tellement c'est important de témoigner. Le nombre de gens, quand on entend ça, qui attendent, qui nous attendent. Et en fait... Pour moi, quand on témoigne, on donne l'occasion à d'autres, lorsque c'est bien fait, de pouvoir participer à la même chose que nous. Quand tu dis comment tu as rencontré Jésus, que tu as crié, tu as fait ceci, puis tes émotions étaient là, puis en même temps il t'a parlé, il t'a touché, puis tu dis « Ah bon ?» Quelqu'un l'entend, il dit « Ah bon ? Donc c'est possible ?» Ça ouvre la porte et la possibilité à quelqu'un qui est dans la même situation que toi, ou qu'en décrivant ce que tu as vécu, il se dit mais c'est moi. Je suis en train de vivre ça. Donc je peux aussi faire appel à Jésus de la même manière. Du coup, il faut soigner et préparer la manière dont on présente nos témoignages. Pour qu'il y ait tous les éléments pour quelqu'un qui ressemble et qui est en train de vivre ce que tu vis, de lui dire mais c'est possible. Dieu veut se servir de nous comme des témoins de ce que nous avons vécu quand nous venons à lui, dans le in, on vient dans sa maison, on le rencontre, on vit un moment d'intimité, on est touché, on est bouleversé, on est heureux, et il nous demande d'aller après avoir vécu quelque chose avec lui. Parce que sinon, on témoignera de quelque chose qui n'aura pas d'impact. Mais si tu l'as vécu, d'autres vont pouvoir le vivre. C'est là notre mission. Alors, on va commencer par quoi? Par un... Et c'est Alfred qui nous rend ce témoignage, juste avant que je continue de prêcher. Merci de l'accueillir, s'il vous plaît.
Bonsoir à toutes et à tous. Alors, suite à la demande du pasteur, je vais vous raconter ce qui s'est passé il y a 3 semaines. Mais juste avant, ce n'était pas prévu. Je ne savais pas que les Gédéons étaient là ce soir. Et... Je vais juste faire une petite note. Je voulais vraiment vous bénir et vous encourager pour ce que vous faites. Vraiment, vous faites une œuvre formidable. Et moi, je suis très attaché à votre œuvre, puisqu'il s'avère que quand j'étais jeune, j'avais un Nouveau Testament justement offert par les Gédéons. Et c'est dans ce Nouveau Testament-là que vraiment j'ai trouvé l'amour pour la parole de Dieu, pour l'étude, la méditation de la parole de Dieu. C'est là que j'ai surligné mon premier verset, puisque je voyais les grands frères qui sont mis dans leur Bible. C'était 1 Thessaloniciens 5:17, « Priez sans cesse ». Et c'est un verset par lequel vraiment Dieu m'a appelé. Dieu m'a parlé profondément. Et la deuxième chose par rapport à ça, c'est que vous avez mentionné cette loi qui est passée le 26 juillet. Il y a 2 ans de cela, c'est un témoignage aussi, hein, mais je vais très court. J'ai le chronomètre. Non, je suis soumis. Il m'a donné un timing, je respecte le timing, j'ai mon chronomètre. Il y a 2 ans de cela, puisque je travaille dans un collège, dans l'éducation nationale, il y avait des Gédéons au pied du collège qui distribuaient des Bibles. Alors c'était la panique totale dans le collège. On m'a dit « Alfred, va voir ce qui se passe », comme ils savaient que j'étais chrétien. Il y a des témoins de Jéhovah qui distribuent des Bibles, tu les dégages de là, on n'en veut pas ici. Donc je suis parti voir et je me suis aperçu que c'était des Gédéons qui distribuaient des Bibles. Donc je dis non, il n'y a pas de problème, ils sont dans leur droit, ils étaient aux abords du collège. Et il s'avère qu'à la récréation de l'après-midi, j'ai vu plein d'élèves du collège en train de lire ces Nouveaux Testaments, puisqu'ils se demandaient ce que c'était. Et moi, du coup, j'ai saisi l'occasion, j'ai dit, mais est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de lire? Alors j'ai dit, regardez, allez dans l'évangile de Jean, c'est ici, chapitre 3, verset 16, voilà ce qui est écrit. Alors, mais comment tu connais ce qui est écrit? Alors, je lui ai dit, voilà, il est écrit ça. Et ça m'a permis vraiment de témoigner d'une manière un petit peu détournée de qui était Jésus-Christ, et grâce à la distribution des évangiles des Gédéons. Donc, que Dieu vraiment vous bénisse pour votre œuvre. Ensuite, donc, il y a 3 semaines de cela, on était réunis à 7 dans le cadre de la réunion pour RNC Impact, auquel appartient l'Église Clé. Et donc, moi et quelques leaders de l'Église Clé, suite à l'invitation du pasteur, on était réunis à 7 au Lazaret. Pour ceux qui connaissent le Lazaret, c'est un village de vacances près de la mer. Et on était réunis là, donc on s'est vu le dimanche soir et le lundi matin, lundi après-midi. Et le lundi midi, alors on avait déjà bien partagé, échangé sur tout ce qui concerne le réseau Impact. Au moment du repas, donc on allait manger dans le service de restauration de ce centre de vacances, et nous n'étions pas seuls. Il y avait aussi des personnes qui étaient là, qui venaient en vacances. Il y avait un groupe de vétérans, de seniors, qui avaient l'habitude de se réunir chaque année. Elles étaient à table. Et nous étions avec les membres du réseau. Et à table, il s'avère qu'on était en train de discuter sur la difficulté qu'il y a en France de témoigner, d'annoncer l'évangile, vous savez, par rapport à cette atmosphère qui est si lourde, si difficile, par rapport à la laïcité qu'on érige presque au rang de religion. On disait, voilà, c'est difficile en France, contrairement aux États-Unis où là-bas, les gens sont chrétiens, c'est dans la culture en France, c'est difficile. Et pendant que nous étions en train de parler, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager une parole à une personne qui faisait le service, là. Et j'ai attendu que le plus de personnes puissent partir. La réunion allait commencer, elle reprenait vers 14h. Et lorsque je me suis retrouvé seul avec cette personne qui faisait le service, je lui ai dit ce que le Saint-Esprit me mettait à cœur, je ne la connaissais pas. Et je lui ai dit que Jésus l'aimait, je lui ai annoncé l'évangile brièvement. Et puis j'ai prié pour lui. Alors il était de l'autre côté du buffet là. J'ai pris sa main, j'ai prié pour lui, j'ai fermé les yeux, je l'ai béni vraiment de tout mon cœur au nom de Jésus. Il a été touché. Et quand je suis reparti, quelle ne fut pas ma surprise, quand je fus interpellé par toute une rangée de personnes. Ces dernières personnes qui étaient dans le restaurant, c'était ces personnes âgées là qui m'ont dit hey, moi aussi, j'ai mal ici, moi j'ai de l'arthrose, j'ai mal aux genoux. Alors je me retourne, je les vois comme ça, et elles croyaient en fait que j'étais un magnétiseur, que je guérissais. Vous pouvez nous faire du magnétisme, parce que voilà, j'ai mal ici, j'ai mal par là. Alors moi je dis waouh, là c'est vraiment l'occasion de. Il faut saisir l'occasion là. J'ai eu un petit moment d'hésitation, je ne vous cache pas, et la réunion allait commencer. Mais je me suis lancé, j'ai dit, bon, écoutez, moi je veux bien vous guérir, mais bon, sachez que moi je guéris par la foi. Et quand j'ai dit je guéris par la foi, ça jetait un froid. Vous savez, ici, quand les voyants, les médiums, ça passe, le spiritisme, ça passe, les magnétiseurs, ça passe, mais quand on parle de la foi, en plus la foi en Jésus-Christ, là, ça crée un blocage. Et là, voyant que j'ai jeté un froid, j'ai dit, il faut que je rattrape la situation là. Donc j'ai commencé à faire des diversions, à parler de moi, d'où j'étais né, etc., que j'avais de la famille du côté français, que ma grand-mère ressemblait à une femme qui était ici, bon, bref. Et ça veut dire qu'en ayant détendu dans l'ambiance, ils se sont levés. Il y a même une personne qui a commencé à prendre un selfie avec moi. Donc, super bien, super cool, détendu. Et après, justement, c'est là que vraiment le Saint-Esprit s'est manifesté. J'ai pu revenir quand même au principal. Alors, mais qu'est-ce que vous faites ici? Ben, moi, vous savez, je suis pasteur. J'ai dit que je suis pasteur, puisque forcément, ça leur parlait plus, pasteur. Ils me prenaient pour un guérisseur, un prêtre, je ne sais quoi. Et voilà, on est là, on est en réunion, on parle de l'église, etc. Et donc, ben, écoutez, si vous voulez, je peux prier pour vous. Et j'ai commencé à prier pour une première dame qui m'attendait là, donc j'ai prié pour elle, et j'ai dit écoutez, donnez-moi votre main, une prière très simple. Donc pendant que je priais pour elle, j'ai prié pour la guérison, bien évidemment, qu'elle avait des douleurs ici au niveau du thorax, elle était oppressée aussi, elle ne savait pas ce que c'était. Et en priant pour elle, elle a commencé à sentir quelque chose. Elle a commencé à sentir une chaleur, quelque chose qui l'a traversée, et surtout elle a ressenti une grande paix. J'ai dit, ce que vous ressentez là, madame, c'est le Saint-Esprit. Il est en train d'agir dans votre cœur, et c'est la preuve que Jésus vous aime. Et donc là, comme elle était toute enthousiaste, oh là, mais qu'est-ce qui se passe? Elle avait chaud, elle avait la paix. Elle dit, mais ça marche, venez. Et donc, quand les autres ont vu que dans ce restaurant-là, j'étais en train de prier qu'il y avait du résultat, du coup, il y a une file d'attente là, il y avait toutes ces femmes qui étaient là, et du coup, elles entendaient que je prie pour elles. Et ce qui est formidable, c'est que bah, du coup, bah, au lieu d'aller à la réunion, bah, je suis resté là, et ça s'est transformé en service de prière et de guérison. Donc j'ai prié pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dames, je crois. Il y avait leur mari qui regardait là, ils se demandaient ce qui se passait, qu'est-ce que j'étais en train de faire. Mais comme j'avais gagné leur confiance auparavant, ils m'ont laissé faire. J'ai prié pour les douleurs internes, physiques, il y a eu des résultats. D'autres, je ne sais pas si elles ont été guéries, peu importe, ça c'est entre elles et Dieu. Mais je sais une chose, c'est que ça m'a permis d'annoncer l'évangile. Et je leur faisais répéter aussi, si elles voulaient accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, donc il y en a qui ont prié avec moi pour recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ça m'a encouragé. J'aimerais terminer simplement en vous disant, vous savez, la Bible dit, dans Actes 1:8, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et j'aimerais vraiment terminer en vous encourageant que cette puissance que nous avons reçue, cette onction du Saint-Esprit que nous avons reçue, c'est avant tout pour annoncer l'évangile, quelle que soit notre culture, quelle que soit notre culture géographique, mais aussi notre culture d'église, quel que soit notre tempérament. Il y a des timides, des moins timides, il y en a pour qui c'est plus facile de le faire. Moi, ce n'était pas forcément évident. Moi, j'aime bien le face-à-face, mais là, il y avait du monde. Et parce que j'ai fait un acte de foi, J'ai décidé d'obéir, le Saint-Esprit a béni. Donc soyez bénis, soyez encouragés. Cette onction que nous avons reçue, nous dit la Bible, elle vient de Dieu, elle réside en chacun d'entre nous. Elle ne demande qu'à se manifester par la foi, par un acte de foi. Soyez bénis, encouragés, et très bon culte.
Waouh. C'est une très belle introduction à ma prédication, la puissance, la force du témoignage. Vous savez, il y a plusieurs métaphores pour parler de l'Église. L'Église est une famille. On le sait. Dieu est notre Père, nous sommes frères et sœurs. L'Église est aussi une fiancée, parce que nous sommes fiancés à Jésus-Christ, d'accord ? Et aux noces de l'agneau, nous vivrons, nous consommerons le mariage, d'accord ? À ce moment-là, il y aura une grande fête. Il y a une symbolique forte de la Bible à ce niveau-là. Nous sommes aussi une école, parce que nous devons enseigner. Il y a des maîtres, il y a des disciples, et nous devons enseigner ce que Jésus nous a prescrit. L'Église est une école. Mais l'Église est aussi une armée. Elle a une mission. Et cette mission, je voudrais nous dire ce soir, c'est une mission, c'est un appel à la guerre. L'une des vocations de l'Église, c'est de déclarer quelque chose. C'est de confesser que Jésus-Christ est vivant. Et cette confession est une déclaration devant les autorités. Mais c'est aussi une déclaration devant Dieu, devant le Père, devant Jésus-Christ lui-même. Et cette déclaration a un enjeu hautement spirituel, grandement spirituel. Et curieusement, par notre bouche, le Seigneur a placé des choses extraordinaires. La parole qui sort de notre bouche, elle est vraiment puissante. Et je voudrais nous ramener à un texte où Jésus pose la question à ses disciples en disant « Mais qu'est-ce que les gens disent que je suis ?» Et ils répondent. Et à un moment donné, Jésus, qui manifestement n'avait pas dit à ses disciples qui il était. Parce que ça faisait quelques années quand même qu'ils étaient ensemble. D'accord ? On est dans Matthieu 16. Et Jésus leur demande, mais qu'est-ce que vous dites que je suis ? Et puis, il y en a un qui se lève, et c'est souvent c'est le même. Pierre se lève, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, tu sais quoi, ce que tu viens de dire, tu ne l'as pas juste su par ton intelligence, une déduction, quoique quand on lit la parole, on se dit, c'est tellement évident, mais Jésus lui dit, c'est une révélation. D'accord ? Et écoutez bien ceci, Jésus dit, tu es Pierre, si toi tu déclares qui je suis, moi je dis qui tu es. Il s'appelait Céphas, mais il dit, toi tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Mais il ne parlait pas de son nom. On a une confusion en français dans la traduction, d'accord ? Il s'agit de la révélation qu'il vient d'avoir. Sur la révélation que tu viens d'avoir que je suis le Christ et que tu as déclaré, que tu as confessé, que tu as proclamé, sur cette révélation, je bâtirai mon église. Il dit, je construirai mon église. Et curieusement, cette église n'est pas bâtie sur un fondement comme ça physique. C'est un fondement spirituel, un fondement qui est basé sur la parole, sur une révélation que tu confesses. Parce que tu confesses qu'il est le Christ, Jésus dit, je bâtis mon église. En fait, à chaque fois que nous confessons, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Quand dans nos vies, il y a une proclamation de foi qui vient d'une révélation de qui il est, vous savez ce qui se passe ? Jésus bâtit son église. Parce que c'est sur ce fondement-là, sur cette révélation-là, et qu'on doit dire devant lui. C'est comme si ce soir, Jésus pouvait se présenter devant les uns et les autres. Mais qu'est-ce que tu dis de moi ? Qu'est-ce que tu dis de moi ? En fait, je crois que Jésus aime bien poser cette question pour venir, pour savoir finalement quelle révélation tu as de lui. Quelle révélation ? Quelle connaissance ? Quelle conviction profonde ? Et du cœur, de l'esprit de Pierre, il y a un cri qui jaillit. Moi, je crois qu'il n'a pas juste dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Waouh ! L'Esprit de Dieu le saisit, je le pense, je le crois, et il déclare par la foi. Quand nous le faisons, il y a un fondement spirituel, sur lequel dit, je bâtis mon église. Et partout où une église se lève pour confesser, déclarer, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, le dire devant Dieu, le dire devant Jésus, le dire entre nous, d'accord ? Le dire devant les démons, devant les autorités. Connaître cette sagesse infiniment variée par la proclamation, la confession. Nous disons la même chose que Pierre à ce moment-là. Tu es le Christ. À chaque fois que nous le faisons, vous savez ce qui se produit ? Jésus bâtit son église. Moi, je le crois. Quand l'Église rentre dans sa mission d'être une armée qui proclame, qui déclare, qui sonne de la trompette, qui fait savoir, mais partout, hein, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, que Jésus-Christ est Seigneur, il est le Fils de Dieu vivant. Quand nous le faisons et que nous rentrons dans ce ministère, vous savez quoi ? Il y a comme une extension du royaume. Partout où c'est fait, partout où c'est déclaré, pas juste entre nous. Vous savez, il y a trois dimensions à cela, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. D'accord ? Que Jésus-Christ est Seigneur. Qu'il est le Christ, celui que Dieu a choisi, par lequel nous pouvons être sauvés. Quand c'est déclaré, quand nous rentrons, nous assumons cela, et qu'une église se réveille pour le faire, moi je crois que partout c'est déclaré, eh bien l'église est en train de se bâtir. C'est pourquoi dans notre église, nous croyons que bientôt, en 2020, j'annonce, il va y avoir des implantations d'églises. Pourquoi ? Parce que nous sommes entre nous en train de proclamer « Tu es le Christ ». D'accord ? De confesser, de témoigner. En fait, tu dis ce que tu vois, tu as vu, tu dis ce que tu as entendu, tu dis ce que tu as expérimenté et tu le proclames. Et c'est un enjeu, mais d'éternité, c'est un enjeu de combat spirituel. Quand nous le faisons, Jésus dit quoi ? La porte du séjour des morts ne prévaudra pas contre elle. Ce n'est pas un bâtiment, l'église. C'est le rassemblement de croyants qui sont des pierres vivantes et qui, parce qu'ils s'édifient les uns les autres, en confessant, en proclamant « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », il se passe quelque chose spirituellement. La porte du séjour de mort ne peut pas prévaloir. Il y a un enjeu, il y a un combat. Ce qui fait qu'on va dans le camp de l'ennemi, on prend ceux qui sont dans les ténèbres, on les arrache dans la foi pour les amener dans le royaume de Dieu. Parce qu'on confesse ensemble « Tu es le Christ ». Est-ce que vous m'entendez là ? L'importance de le déclarer. L'importance de le proclamer. C'est une confession de foi. Et je vais vous dire, parce qu'on va rentrer dedans, c'est sûr que la porte du séjour des morts ne va pas dire « Oui, on vous ouvre la porte, venez chercher, servez-vous, ouais, c'est gratuit, sans problème, sans confrontation. » Il y a un combat. Il y a un combat. L'Église est une armée. Et son arme, c'est quoi ? C'est la parole. Là, notre arme, c'est quoi ? C'est la déclaration. C'est incroyable comment que Dieu dit, votre arme, c'est ce qu'il y a dans vos bouches. Votre arme, il y a de la dynamite dans ta bouche. Il y a une puissance qui est insoupçonnée. Qu'il s'agit de confesser devant Dieu quand on adore, c'est déjà extraordinaire de le faire. Hein ? Devant Dieu quand on adore, c'est extraordinaire. Et la porte du séjour des morts est ébranlée. Jésus-Christ est Seigneur. Oh, alléluia. Et dans le monde des ténèbres, quand ils entendent des chrétiens remplis de foi qui confessent que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il le confesse, il est le Messie, celui que Dieu a appointé, et il est vivant, il est le Fils du Dieu vivant, celui que, à qui je rends témoignage est vivant, c'est pas un Dieu mort, c'est pas un Dieu d'hier, c'est un Dieu d'aujourd'hui. Il est vivant, j'ai relation avec lui, j'ai communion avec lui, je te parle d'une relation vivante, il me parle, il me touche, je viens te dire, je viens te rendre témoignage de ce que je vis dans le hymne. Dans le hymne de ma rencontre avec lui, j'ai connecté avec lui, je sors, je viens te témoigner de ce que j'ai vu, je viens de témoigner de ce que j'ai entendu, je viens de témoigner de ce que j'ai touché, je viens d'en parler avec toi. La vie, je te le transmets au nom de Jésus. Je suis une pierre vivante et connecté aux autres, je suis en train de transmettre la vie. Je suis en train de chercher d'autres pierres vivantes. Le Seigneur est en train de chercher d'autres pierres vivantes. Et en fait, l'Église est un bâtiment vivant. C'est un organisme vivant. C'est une église en mouvement et qui avance comme une armée qui a un message. Son arme est dans sa bouche, le proclame. C'est pourquoi je dis, en 2020, il va y avoir une autre église fondée sur la confession de « Tu es le Christ ». Cette église va envoyer des personnes pour dire ailleurs, dans un autre lieu. Il a dit d'abord à Jérusalem, puis après en Judée, en Samarie, partout. Où les chrétiens vont aller, ils vont déclarer « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, tu es le Christ ». Vous savez, cette déclaration comporte tellement de choses, c'est le fondement de l'Église, la révélation que tu es le Christ. Est-ce qu'on peut dire « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant » ? On le dit ensemble, d'accord ? Hein ? Je propose même qu'on se lève, vous voulez bien qu'on se lève ? On va faire ce que Pierre a fait. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » 1, 2, 3. «
Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. »
Alors je répète, tu es le Christ, d'accord? Ça veut dire Messie. On proclame, tu es le Christ, le Fils. Ça sort de nos bouches, mais avec foi, d'accord? Il y a quelque chose dans le monde des ténèbres qui tremble quand l'Église se lève pour le déclarer. 1, 2, 3. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. J'aime ça. Oh, encore. Encore. On va le faire. Et quand on a fini, on se met à pousser des cris de joie. Parce qu'on croit ce qu'on est en train de déclarer. Amen. 1, 2, 3. Le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Oui, alléluia. Si nous le croyons, prenez place. Si nous le croyons, ça va habiter nos entrailles, ça va habiter notre cœur, ça va habiter nos êtres intérieurs. Nous devenons ecclésia. Le terme biblique ici sur l'église, c'est ecclésia, c'est pas un bâtiment. Notre représentation, quand on entend l'église, on entend un clocher, on voit un clocher. Alors que là, il parle d'un gouvernement. D'accord? Quelque chose qui avance. Quelque chose qui vient du royaume de Dieu et qui avance, qui est en train de confronter la porte du séjour des morts. C'est entre la vie et la mort. C'est pour ça que nous devons être des témoins de vie. Des témoins qu'il est vivant. Il faut qu'à chaque fois que tu parles, tu ouvres ta bouche, les gens sentent, perçoivent, mais il est vivant. Mais tu me parles d'une relation avec quelqu'un que tu vois pas. Qu'est-ce qui se passe? Ça se voit sur ton visage, il y a quelque chose de vivant. Tu entends, tu touches, tu vois. Et puis il y a quelque chose qui se transmet. Parce que c'est quelque chose qui vient de ton esprit et de ton cœur. Alléluia. Et cette déclaration, elle est devant Dieu, les autorités, et c'est une bonne nouvelle. Je voudrais dire, ici, il y a 3 dimensions à notre témoignage. Il y a la parole, et c'est fondamental. Jésus dit, les Écritures rendent témoignage de moi. C'est pour ça que je voudrais tellement encourager les Gédéons. La parole en elle-même est suffisante. C'est incroyable, moi j'ai entendu d'autres témoignages où juste la personne, il prie, juste la personne ouvre la parole, sans qu'il y ait l'intervention d'un homme, Dieu parle. La parole de Dieu, elle est vivante. Elle est efficace. Elle est suffisante. Il faut que dans tous nos témoignages, il y ait la parole de Dieu qui soit au fondement. Parce que c'est la parole qui donne la vie. C'est elle qui féconde. Il faut que nous nous effacions et que ce soit la parole qui soit annoncée. Que dans notre témoignage, il y ait une parole. Alors, je voudrais dire, moi j'ai prêché, je veux me repentir ce soir. J'ai prêché, oui, il n'y a pas besoin. La parole, c'est pas important. Tu es prêché en tout temps. Et puis, s'il est nécessaire, par quelques paroles. Je ne sais pas si vous connaissez ce genre de... C'est François d'Assise qui a dit ça. J'ai prêché ça en disant, ouais, mais les œuvres sont importantes. Vous allez voir, c'est important. Mais la parole vient en premier. C'est plus le temps de dire, oui, on va guetter l'occasion, peut-être 1 an, 2 ans vont passer, peut-être que je vais me lever pour dire. Non, la parole vient en premier. On va témoigner par la parole. Une bonne nouvelle, elle doit s'annoncer. La bonne nouvelle se dit. Vous avez vu quelque chose d'extraordinaire? Vous n'allez pas faire des simagrées pour essayer de faire comprendre aux gens, oui, c'est une bonne nouvelle, peut-être, pose-moi la question, je vais te le dire. Tu l'as dit. Vous voyez, je vais vous dire une bonne nouvelle. Ce matin, on a fait les soldes. Non, les puces, pardon, les puces. Est-ce que vous voyez le résultat des puces? J'ai fait les puces. D'accord. Mais j'ai vu une chaussure magnifique. Je l'ai vu, je l'ai négocié. Oh, on a négocié, j'aime bien ça, moi je suis un peu africain sur les bois. On a négocié. J'ai fait une bonne affaire. Elle valait très 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 cher. Jamais mise, rien que pour moi. Alléluia. Je suis en train de témoigner. Je suis en train de vous témoigner une bonne nouvelle. On fait des affaires aux puces. Alléluia. Et vous avez la preuve. Je vous fais la démonstration que ça marche. Vous voyez, je ne vous parle pas d'un truc, non. C'est réel, c'est vivant, c'est dans mes pieds, là. C'est ici, là. L'équipement de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Alléluia. Voilà, ça, c'est que ceux qui lisent la parole qui savent ce que je viens de dire. Je viens de vous témoigner une expérience que j'ai vécue. Qui me réjouit? J'aime faire des bonnes affaires. Alors, une championne de ça, c'est ma femme. Elle l'aime faire. Et quand c'est trop cher, elle va même dire non, j'en veux pas. Pourtant, elle le veut, hein, mais elle va lâcher l'affaire. À plus de 3 euros, non, c'est plus intéressant pour elle. Vous Voici ce que nous dit la parole. On est dans Actes 4, verset 33. C'est extraordinaire. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Voilà notre appel, voilà notre destinée. Rendre avec beaucoup de force témoignage. C'est pas juste rendre témoignage, mais le faire avec beaucoup de force. Ça veut dire que ça avait un impact extraordinaire. Et quand ils ont voulu remplacer Judas, ils ont dit, il en faut un qui soit témoin de la résurrection. Il nous faut en trouver un qui soit témoin. C'est-à-dire qu'il l'ait entendu, qu'il l'ait vu vivant. Quelle grâce, 40 jours, Jésus passe du temps avec eux. Oh, alléluia, qu'est-ce que j'aurais aimé être là. Vous savez, c'est pas juste le Jésus avant la résurrection, c'est le Jésus après la résurrection, 40 jours. Et ils disent, les 12 là, qui ont cette mission de témoigner, ils sont témoins de la résurrection. Je vais insister, témoins de la résurrection. On n'est pas témoins d'autre chose. On doit pouvoir dire, je te parle d'un Dieu vivant. Que dans tous les témoignages, on dit, je te parle d'un Dieu vivant. Celui que je t'annonce, ouais, il m'habite. Et vous savez, on peut le dire comme ça, là, avec des mots. Mais les gens le perçoivent. Quand il y a la vie, les gens le perçoivent. Et présenter Jésus vivant, c'est très, très important. Et curieusement, il y a une association dans le Nouveau Testament. Si vous relisez les actes, je vous engage à relire les actes, vous allez voir, c'est toujours en rapport avec la résurrection. Toujours. Et j'insiste, je vais même donner mon propre témoignage courtement pour dire à un moment donné, je rencontre un Dieu vivant. Et il faut te préparer à témoigner et à chaque fois de placer le Dieu vivant dedans. Je me suis converti, j'avais 14 ans. Et on vit dans un quartier difficile. J'étais sans mes parents qui m'avaient envoyé 4 ans avant faire mes études ici. Et je commençais à filer du mauvais coton avec un sens de manque de repères. Je n'avais pas mon père là, je manquais de repères, d'accord. Et je commençais à filer vraiment du mauvais coton. Et puis à un moment donné, mon père vient nous voir, le Dieu le touche dans sa santé, je fais l'histoire courte, je me retrouve dans un camp d'ados et de jeunes, et ils vivent quelque chose avec Dieu, c'est des chrétiens. Et au bout d'une semaine, je suis touché, bouleversé, et à un moment donné, j'ai tellement soif de lui, je le cherche dans une réunion supplémentaire. On dit, ceux qui veulent aller plus loin, ceux qui ont soif d'autre chose, une réunion supplémentaire. Et là, je cherche Dieu, et je suis pas chrétien du tout. Je cherche Dieu, parce que j'ai senti la vie dans les autres ados. La vie était là. J'ai dit, je veux ça, ça je le veux. Ça se trouve où? On me dit, c'est la réunion là-bas, j'y suis allé. Et là, Dieu, j'ai soif, Dieu. Je ferme les yeux, à un moment donné, le ciel s'ouvre et je le vois. Écoutez-moi, je le vois. Et je discute, 14 ans, je discute avec lui. Et là, mais pourquoi t'es mort? Pourquoi? L'évangile prêché en direct. Dans mon esprit. Je pleure toutes les larmes. Et le Seigneur me montre, il est mort pour moi. Il me prêche l'évangile à moi. Il est mort pour moi. Je dis, mais pourquoi? Pourquoi je ne suis pas digne? Vous voyez, comme si on m'avait déjà fait le catéchisme. Comme si je savais déjà ce qu'on doit... Je m'en souviens comme si c'était hier. J'ai rencontré le Seigneur. Et il est vivant. Je rentre chez moi. Ça, c'est le après. Je vous ai fait le avant. Je vous ai décrit avec force ce qui s'est passé quand je l'ai rencontré. Je rentre chez moi. Je suis bouleversé. Et il n'y a rien qui se passe. J'arrive à la maison. Tout le monde sait qu'il s'est passé quelque chose. Vous savez, quand on a vécu quelque chose, on a rencontré le Dieu vivant, on le sait, mais les autres le savent. Ils se mettent autour de moi, autour de la table. Rodrigue, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous. Et là, je prends le temps, je savoure ce moment. Je vais vous le raconter. Le dimanche d'après, toute la famille était à l'église. Toute la famille était à l'église. Le parfum de la vie, la connaissance de Jésus. Sans cette expérience, on va être consommateur. On ne va pas conduire à Jésus. Il nous faut le vivre. Être témoin, tu l'as vu, tu l'as entendu, tu l'as goûté. Et ça fait une différence. Pourquoi? Parce qu'il demande à ce que... Il dit, attendez, hein, partez pas tout seul. Cherchez, même si vous m'avez vu vivant, attendez une puissance. Et on va le voir. Mais la parole est indispensable. Donc, qu'est-ce que j'attends de nous? Qu'est-ce que j'attends de chacun de nous? C'est de préparer notre témoignage. Soyez prêts. Travaillez votre témoignage. Faites-le en famille. Raconte-moi, je la connais par cœur, mais raconte-moi. Oh, mais tu devrais, qu'est-ce que tu penses de ceci? Pour qu'au moment où tu le... Vous savez, les grands musiciens, les virtuoses, Ils improvisent pas au dernier moment. Tu veux servir la musique du ciel? Tu veux, vous savez, tout ce qui est excellent est préparé dans le détail. Il s'agit de pouvoir le dégainer suivant la personne. Moi, mon témoignage, je peux le dégainer, mais dans plus. J'ai en face des ados, je peux. J'ai en face des parents, je peux. Vous savez, je peux dégainer. Pourquoi? J'ai préparé mon témoignage. J'ai préparé mon témoignage. Alléluia. Alors, la deuxième dimension, je vous ai dit, il y en a trois dimensions. Il y a la parole, il y a la puissance, il y a les œuvres, et puis il y a les actes. Paul a dit dans Romains 15, j'ai abondamment répandu l'évangile par la parole. Il commence par la parole, par les actes et par la puissance du Saint-Esprit. Pour être véritablement témoin, il nous faut la puissance. C'est une recommandation du Seigneur. Attendez! Quand même, il est venu pour ça, il a dit, attendez la promesse, attendez la puissance, attendez ce saut. Et Jésus dit, les œuvres qu'il fait, quand Jésus il est confronté avec les pharisiens très souvent dans la parole, à un moment donné, il dit, écoutez, et à chaque fois que je lis ce texte, j'ai l'impression que Jésus est en compassion. Il dit, écoutez, vous ne voulez pas croire en moi tout ça, mais croyez au moins à cause de mes œuvres. Écoutez, même à ses disciples, écoutez, vous avez du mal à croire tout ça, mais croyez, j'ai fait des œuvres, ces œuvres témoignent de moi, dit Jésus. Les Écritures témoignent de moi, mais les œuvres que j'ai accomplies, en fait, il nous faut des œuvres. Un évangile qui n'est pas puissant, un témoignage qui n'est pas puissant, accompagné avec un sceau où l'autre peut dire, je l'ai vécu moi, et moi-même je peux en parler aux autres. Je l'ai vécu, c'est pas intellectuel, parce que si c'est intellectuel, tu n'auras pas la force de témoigner. Parce que le vrai témoignage, c'est un moment de confrontation. Je rappelle, nous sommes une armée. Il y a un ennemi. D'accord? Si tu n'as pas la puissance, si tu n'as pas la puissance de feu, il vaut mieux pas rentrer en guerre, là. En général, il dit, hop, hop, hop. Jésus dit, hein, quand tu veux partir en guerre, calcule. Est-ce que tu as assez de soldats pour gagner? Si ce n'est pas le cas, il dit, vaut mieux pas y aller. Ça va faire mal. Et en fait, il y a une puissance qui est dans le ciel, qui est dans nos cœurs, qui nous accompagne quand on y va. Bien sûr que ça va castagner. Et j'ai envie de nous dire, mais les disciples, les apôtres, ils étaient contents quand ils étaient persécutés. Oh yes, c'est bon, on a souffert pour le maître. Le maître a souffert pour nous, il a donné sa vie. Nous, on a un peu souffert. Alléluia! Nous, dès que ça castagne, on dit, hop, 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 on va battre en retard. Non, au contraire, ça fait partie de l'aventure. Il y en a même qui étaient heureux d'être martyrs pour Jésus. Il y a quelques morts dans l'affaire. Parce que l'ennemi, il ne va pas lâcher l'affaire comme ça. On a un combat. Ils vont en garder le maximum. Et nous, on veut en gagner le maximum. Alors, qui va gagner? D'accord? Il y a un conflit. Donc, à des moments, ben, ils tirent des flèches. Et puis, il y a des gens qui tombent. Et ceux qui tombent au combat, il y a une couronne qui les attend. Donc, je suis en train de vous parler de sueur, de sang et de là. C'est un beau programme, n'est-ce pas? Bon, la sueur, je suis bien parti. Mais le sang, c'est pour vous. Non, c'est pour nous, vous comprenez bien. Je cherche, comme je parle de choses un peu compliquées, je cherche à détendre l'atmosphère. La puissance, c'est pas pour nous faire du bien. La puissance, c'est pour être témoin. Avoir la force d'être témoin. Dans nos milieux, on pourrait vouloir la puissance pour gonfler les biscottos. Moi, je chasse les démons. Moi, je guéris les malades. Moi, je fais des miracles. Non, non. La puissance, c'est pour être témoin. On a besoin de cette puissance. Et curieusement, elle s'active quand on sort de la barque. On y va, on prend des risques. Seigneur, écoute, tu nous as dit, allez, c'est dur, je vais me noyer peut-être, mais j'y vais quand même. Je préfère me noyer avec toi que d'être sain et sauf sans toi. J'y vais. Regardez ce qui se passe. Les apôtres rendaient avec... Non, non, alors c'est le... Je pense que c'est celui d'après. Juste après, s'il te plaît. Ah, oui. Non, juste après. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. On est dans Marc 16, 20, le dernier verset de Marc. Jésus s'en va. Et puis, certainement, après la Pentecôte, ils obéissent à Jésus. J'aime ce verset. Ils y vont et ils disent, nous, on fait notre part. On confesse. On partage la parole. Nous, on fait notre part. On déclare que tu es le Christ. Ça va peut-être nous coûter des tas de choses, mais nous, on le fait. Et la Bible nous dit, c'est comme si le Seigneur est avec eux. Et puis, à chaque fois qu'ils le font, ils confirment sa parole. C'est quand même extraordinaire. Il prêche la parole, il dit le royaume de Dieu s'est approché. Et à chaque fois qu'il prie pour un malade, boum, le malade est guéri. Parce qu'ils sont sur le terrain et le Seigneur est juste avec eux. Il a dit, je suis avec vous, d'accord? Je ne vous laisse pas jusqu'à la fin. Faites-le, déclarez et moi je mets un saut. Il a dit, ce que vous liez sur la terre est lié dans le ciel, d'accord? Ce que vous déliez sur la terre. Donc lui, il est avec eux. Ils le font, il le déclare, boum, il tamponne. Ils le font, il déclare, boum, il tamponne. Je suis avec vous, je confirme. Et je vais vous dire, ce que Alfred nous a partagé, c'est la culture dans laquelle on veut grandir. Il y a une réunion où on parle de ce qu'il faut faire. Eh bien, lui, il est hors de la réunion et il fait de ce sur quoi nous sommes en train de parler. C'est quand même intéressant. Et il vient à la fin de la réunion pour dire « J'ai un témoignage !» Je trouve ça intéressant. Et je crois que là où on s'en va, j'aimerais tellement que les espaces de témoignage soient des témoignages où à la fois, on va dire « Je l'ai dit, je l'ai fait, je l'ai partagé à quelqu'un », mais aussi j'ai osé prier pour les malades. Et j'ai beaucoup aimé la dernière fois Olivier. Il prie tous les jours pour ça, puis il se retrouve à la gare de Nîmes. Il a essayé, et puis ça n'a pas marché. J'ai trop aimé ça. Parce que c'est exactement ce dans quoi on s'en va. Parce que, ok, on peut raconter toujours ce qui marche, mais on peut aussi raconter ce qui ne marche pas. Parce que la pression, elle n'est pas sur nous, elle est sur lui. Il a dit d'y aller. Nous, on y va. On fait ce qu'on a à faire. Et lui, il fait ce qu'il a à faire. Peut-être même que ça ne correspond pas à nos schémas. On aimerait un scénario hollywoodien où tout toujours finit bien. Vous avez remarqué que les scénarios français, souvent à la fin, ça ne finit pas bien. C'est réussi, c'est français, mais ça ne finit pas bien. Oh mince, je m'étais habitué à ce que... Oh, il y a un happy end. C'est peut-être une caricature ce que je dis, mais vous comprenez ce que je veux dire. Les Américains, ils aiment bien la trompette à la fin. Il y a la cavalcade. Non, la cavalerie. Qui arrive. Délivrance. Oh, youpi. Sauf que. Notre conception de l'évangile est vraiment tronqué. Je relis Thessaloniciens en ce moment. Paul, quand il écrit aux Thessaloniciens, il dit, mais ok, en fait, c'est par beaucoup de tribulations que Dieu a voulu que nous recevions. Vous souffrez beaucoup, oui, ça fait partie du plan de Dieu. Vous souffrez, c'est dur, vous êtes au fond là. Et là, je viens d'apprendre que vous tenez ferme, c'est Dieu, vous tenez ferme, mais c'est là la volonté de Dieu pour vous. Je dis, mais quel est l'évangile? Cet évangile-là, c'est celui que vous connaissez, vous? C'est-à-dire que dès que Jésus ne nous bénit pas et ça ne va pas, Dieu m'a abandonné. Mais il nous forme pour être en capacité de traverser et d'être des martyrs. En fait, les vrais témoins du Nouveau Testament, c'est les martyrs. Les martyrs. Et pour être martyr, il faut la puissance. La puissance en nous. Mais la puissance aussi qui vient confirmer la parole que nous prêchons. Donc ça veut dire, déjà, il y en a pour qui vous dire, bon ok, ça y est, j'ai décidé de le dire. J'ai décidé d'être une pierre vivante du corps de Christ qui déclare qu'il est le Christ. Ok, je l'assume, je vais le dire. Première étape. Celui qui le dit déjà aspire à la puissance et à la démonstration. C'est indispensable. Ça fait partie de l'intention de Dieu. Que ce soit suivi de puissance et accompagné. C'est pourquoi ce soir, on va prier. Il y a peut-être quelqu'un ici qui est là pour la première fois, qui se demande, mais qui on est? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on le fait ça? Et tu veux pouvoir, comme on a entendu les témoignages, défier Dieu. Si tu existes, fais quelque chose. On veut pouvoir prier pour toi ce soir. Prier simplement. La pression, elle n'est pas sur nous. Elle est sur lui qui a dit, faites-le, annoncez, priez. Moi, je fais ma part. Faites-le. Moi, je fais ma part. Ça, c'est la deuxième dimension dans laquelle on va rentrer, qu'on va multiplier de manière simple. C'est-à-dire que je crois qu'il y a une culture du naturel, d'un surnaturel qui est naturel, et pas que ça fasse peur, que ça fasse ésotérique, que ça fasse mystique. Il s'agit d'invoquer Jésus simplement. Mais d'oser le faire. Alors, je disais tout à l'heure, je vais bientôt terminer. Je disais tout à l'heure, il y a deux types de témoins. Juste avant, il y a deux types de témoins. Vous savez, le contexte biblique de Acte 1 et puis d'autres contextes. On est vraiment devant les tribunaux, dans une confrontation. Vous savez, une puissance, vous savez, mes témoins. Ce n'est pas témoins dans un contexte de confort. C'est de suite dans le conflit. Les tribunaux, les situations d'opposition, d'accord ? Et devant un tribunal, il y a deux types de témoins. J'ai cherché sur Wikipédia. Témoin de fait. C'est-à-dire, celui qui va témoigner, il va dire, écoutez, moi, je viens vous dire ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu. Et en plus, avant qu'il le dise, on lui dit, écoute, il faut que tu dises la vérité et rien que la vérité. Alors ça, pour ça, normalement, les chrétiens, avec la vérité, ça va, ils sont réconciliés, vous voyez. Ils ne vont pas chercher à mentir. Ils ne vont pas chercher à même amplifier ce qu'ils ont vécu. Vous savez, les non-croyants perçoivent quand ce n'est pas vrai. Sois vrai. Dis exactement ce que tu as vécu. Parce que l'esprit de l'homme connaît l'esprit de l'homme. Il l'entend quand c'est vrai. D'accord ? Il perçoit que c'est vrai et il va dire, ok, rien que la vérité. La vérité est rien que la vérité. Et tu dis ce que tu as vu, tu dis ce que tu as entendu. Puis il y a un deuxième type de témoin, c'est un témoin de personnalité. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va venir, il n'a pas vu, il n'a pas entendu, mais il va dire, mais la personne là qui est jugée, je la connais. Et je décris qui elle est. Je vous partage sa personnalité, ce que je connais de cette personne. C'est pour ça qu'il y a ces trois dimensions. Ce que tu as vu, ce que tu as entendu, et ce que tu as expérimenté. C'est ce que nous dit Jean. D'accord ? Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons expérimenté. Nous vous en rendons témoignage. Parle de ton Jésus. Parle de la relation que tu as avec lui. Waouh ! Si elle est réelle, si elle est authentique. Parle, décris sa personnalité. C'est pas magnifique ? Ça ressemble à l'adoration, n'est-ce pas ? C'est de l'adoration ? Pas témoigner. En fait, c'est témoigner, au lieu de le faire dans son culte personnel, fais la même chose que tu dis à Jésus à un non-croyant. Mais change, enlève les Alléluia, les Amen, enlève les Seigneurs. Vous savez, du coup, nos prières, y aurait moins à dire. Hein. Enlève ça et dis la même chose à un non-croyant. Mon Jésus, ce que je vis avec lui, il est vivant dans mon cœur, c'est réel. Et c'est pas mystique. Des gens bien, bien, bien dans cette vie-là, sur Terre, mais qui sont en capacité d'être témoins de personnalité. Témoins de la personnalité de Jésus. C'est magnifique. Je finis avec le fait que nous le fassions ensemble, par les actes, d'accord ? Témoins par la parole, témoins par la puissance et par les œuvres, une démonstration pour rejoindre les autres, et témoins par les actes. Et je voudrais dire que le témoignage chrétien a une dimension communautaire. Parce que Jésus a dit, vous serez mes témoins. En fait, il y a un autre témoignage qui concerne la communauté. Il faut que les croyants ensemble soient témoins. Dans l'esprit de Jésus, c'est les douze qui devaient être témoins. Ensemble. C'est pour ça qu'il nous est dit, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est toujours les uns pour les autres. Il faut un groupe qui vive le rêve de Jésus, qui arrive à s'aimer, pour que le monde ait un témoignage concret. Ce n'est pas simplement un miracle, une guérison, mais il y a un miracle encore plus grand qu'une guérison, c'est que des humains qui s'aiment. Le témoignage de ce que nous vivons ensemble. Est-ce que nous vivons ce que Jésus nous a prescrit ? Est-ce que nous nous aimons les uns les autres ? Et là, disons qu'il y a un peu de travail. Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Il y a une dimension à notre témoignage qui passe par le « nous ». Est-ce que nous le croyons, nous avons une relation qui nous transforme suffisamment pour réussir à nous aimer? Vous savez, moi je crois que l'Église primitive qu'on aime tant pour la puissance, nous charismatiques et pentecôtisants, son témoignage était puissant plus par leur amour que par la puissance et la guérison. Ce texte de Acte 4, donc j'ai lu tout à l'heure, il rendait avec beaucoup de force témoignage. Juste avant, il est dit qu'ils avaient tout mis en commun. Le « aimez-vous les uns les autres », le premier des commandements le plus important, ils l'ont pratiqué. Et en le pratiquant, avec un amour puissant, c'est devenu une démonstration qu'il est vivant. Que c'est la vérité ce qu'il a dit, et que l'amour était une vraie clé, que ça venait du ciel, et c'était agapé, et que c'était extraordinaire. Ils l'ont pratiqué à tel point qu'ils ont mis leur argent ensemble. Oh Jésus-Christ. Bon, ça peut arriver en Israël, mais en France. Des croyants qui s'aiment tellement, qui sont comme un. Ils ont tout mis en comme un. Et cette incarnation de l'évangile, de la bonne nouvelle, du royaume qui vient, qui transforme les vies, en capacité de toucher même notre rapport à la propriété, ouh, j'ai dit un gros mot là. La propriété, ça, c'est à moi. Là, ils ont dit non, il n'y a rien qui était à eux. Wow, Jésus-Christ. Rien. Et c'est ça qui donnait de la force à leur témoignage. Parce que les gens regardent, ils disent, waouh, c'est quoi ça? Ça sort d'où ça? C'est un miracle. Ça sort d'où? Et dans les épîtres, partout, c'est aimez-vous, mais aimez-vous. Si vous vous aimez, ok. Là, vous avez l'autorité même pour témoigner. Parce que c'est viens et vois. Il y a une dimension au témoignage qui est communautaire. Donc, en fait, dans notre église, on va mettre en place, on veut renforcer, je l'annonce, plusieurs sont en train de l'entendre, mais je le dis, c'est peut-être prophétique, je le dis, des groupes pour vivre l'église. Notre église peut vivre des cultes, et c'est super, et franchement, c'est important, mais ce qui est pour moi de plus important, c'est ce qui se passe dans les groupes où des non-croyants peuvent nous voir vivre ensemble. On a besoin que le non-croyant nous voit vivre ensemble pour que ce soit une incarnation du message, une démonstration du message. Nous nous aimons vraiment. Je me souviens d'un témoignage d'un frère qui a vécu un accident. Il s'appelait Octavio Bermeo ici dans notre église. Il vit un accident et puis il travaillait dans une entreprise. Et quand il a vu que des chrétiens s'étaient, parce qu'il n'était pas assuré pour ça, etc., se sont cotisés pour lui acheter une voiture. Ils ont dit, what? Quoi? C'est qui? C'est, ça sort d'où? Vous voyez, le choc du témoignage de croyants solidaires qui ont décidé de se mobiliser. Et on ne le fait pas pour le témoignage, on le fait parce que nos cœurs sont touchés, mais qu'il y a une vraie solidarité. Et la solidarité, dans ce monde, dans cette France, mais alors, comprenez-moi, moi je suis très heureux. Si vous saviez, quand, à chaque fois les grèves et tout, je dis, les gens ne savent pas le privilège qu'ils ont de vivre en France. Franchement, il faut bouger un peu. Aller en Afrique. D'accord. Et je ne dis pas ça, moi, ce n'est pas politique ce que je suis en train de dire. Mais par contre, tellement individualiste sur nos droits, sur nos acquis sociaux et tout le reste. Quand l'évangile vient et que ça touche ça, et que ça nous rend capables d'être solidaires, ça fait une différence. Je finis, j'ai fini. Fais-moi la dernière slide, s'il te plaît. Voici ce que je nous propose, de préparer notre témoignage avant, pendant, après, pour permettre aux gens d'entendre, partageant la bonne nouvelle, racontant la grande histoire. On en a déjà parlé, on y reviendra. Invitons parmi nos oikos, c'est-à-dire les personnes que Dieu nous a données. Nous avons invité, j'ai invité ma conseillère financière à venir au concert de gospel. Mais il faut dire, elle m'a dit... J'adore le gospel. La prochaine fois qu'il y a un concert, je veux être là. J'ai dit, oui chef. Donc j'ai envoyé un mail, j'ai dit que la prochaine, c'est là samedi ou sinon dimanche. Et je crois qu'elle va venir. C'est une invitation. Je crois qu'elle a soif, il y a quelque chose. Du coup, faisons notre part. Faisons notre part. Invitons. J'ai ici un flyer. d'invitation pour le concert. Ce que vous pouvez faire, c'est un point de contact. Ce n'est pas forcément pour que la personne vienne physiquement. Si elle-même ne peut pas venir, vous avez eu une occasion de lui partager quelque chose de votre vie. Vous savez, ce concert, moi en tout cas, j'ai... Enfin, vous voyez, et ça peut déclencher les choses. Et en 30 secondes, vous pouvez semer quelque chose. Donc, on imprime ça, pas juste pour inviter, on imprime ça pour un contact physique avec quelqu'un. Tiens, tiens, j'ai pensé à toi. La personne va me mettre à regarder. Et vous avez une fenêtre de... J'ai 30 secondes pour vous dire une bonne nouvelle. Et toutes ces occasions participent. Et je voudrais rajouter ici, Dieu agit, on le dit. Et dans notre église, il y a une adresse mail, témoignage avec s@egliseclé.fr, où vous pouvez rendre témoignage. Ça peut être votre conversion, quelque chose que vous avez vécu, une provision de Dieu. À chaque fois, il faut qu'il y ait un parfum de vie. On témoigne que Jésus est vivant aujourd'hui. On témoigne que Jésus... Et on l'écrit, et on le dit, et on le proclame. En le faisant, nous sommes en train de permettre au Seigneur de bâtir son église. Parce que c'est sur la base de notre confession de foi. Vous pouvez aussi rejoindre les Gédéons et toutes les initiatives de prière dans la rue. Il y a des choses qui se font dans notre église. Il y en a pour tous les goûts. Rapprochez-vous de Anne. Anne, tu veux bien te lever, s'il te plaît? Anne est responsable de toutes les initiatives d'évangélisation. Merci. D'évangélisation, de partage de notre foi. Il y en a pour tous les goûts. On peut avoir un groupe de découverte, un support pour partager notre foi avec des gens qui ont soif autour de nous. Soyons l'Église en confessant notre foi. Soyons l'Église en déclarant ce que nous croyons de lui. Il est vivant. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Demandez au groupe de louanges de revenir. Alléluia. Alléluia. Je vous propose simplement de fermer vos yeux un moment et de vous connecter au Seigneur dans ces trois dimensions, de la parole, de la puissance et des actes d'amour. Peut-être le Seigneur va inspirer dans vos cœurs d'initier un groupe. Dont le but ne sera pas juste d'avoir du fun ensemble, mais de nous aimer. Et que vous soyez ensemble une incarnation, une démonstration. Vous êtes témoin, vous êtes en communion avec le Christ vivant. Laissez cela grandir dans vos cœurs. Je crois que le Saint-Esprit est à l'œuvre au milieu de nous. C'est lui qui parle. Il le fait. C'est lui qui dit, mettez-moi à part. Il y a des temps, il y a des momentums particuliers. Et ce temps, cette saison est un momentum particulier. Mettez-moi à part. Mettez-vous à part. Acceptez d'entendre sa voix. De former des duos, des trios. Et d'accueillir sa pensée. Sa volonté, il va inspirer nos cœurs. Oh, Saint-Esprit, au secours. Viens à notre secours ce soir, je te le demande. Oh. Je veux rappeler ce que je disais au début, nous sommes une armée. Cette armée a pour arme et pour mission de déclarer, de proclamer, tu es le Christ. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Sur cette parole, Jésus bâtit son Église. Et par cela, il libère des vies qui sont dans les ténèbres et dans la mort. Par cette parole, par cette déclaration, il y a une prise de position que le Seigneur veut nous donner d'avoir encore ce soir. De dire, je veux prendre position pour déclarer. Non seulement dans ma vie personnelle, dans mon culte personnel envers Dieu. Non seulement en famille, mais dans les cercles que je maîtrise, que je connais. Mais en dehors, déclarer, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Par nos vies. Par notre engagement au travail, là où il nous place. Être l'Église que Jésus bâtit sur notre parole, notre arme, c'est sa parole. Ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu. Il y a une victoire qui est rattachée à ceux qui parlent la parole de Dieu. Il y a des victoires qu'on ne peut avoir que ceux qui témoignent, qui déclarent, qui le disent dans le ciel, qui le disent devant les démons, qui le disent devant les autorités, mais qui le disent aux humains. Une déclaration de foi. Alléluia. Une déclaration de victoire. Ils l'ont vaincu. la parole parle de l'ennemi, de Satan, l'adversaire de nos âmes. Parle le témoignage. Alléluia. Je prie, j'attends des témoignages de ceux qui diront: j'ai vécu des délivrances parce que j'ai rendu témoignage. J'ai vécu des délivrances dans ma vie parce que la parole est sortie de ma bouche pour glorifier Jésus devant des non-croyants. Supporter, avoir l'audace d'être témoin, même dans des situations d'adversité. Alléluia, alléluia. Est-ce que vous entendez ce que l'Esprit dit? Est-ce que vous entendez ce soir ce que l'Esprit dit? Pour moi, il y a une évidence d'un temps d'offensive, de prise de position. Et cette période de Noël est propice à ça, à cette période de Noël. Thank you.